France Culture.
On sentait un cocon après l'Enfray. Après l'Enfray, c'était un trou. Il y avait 180 habitants quand il y avait du vent.
Nous étions protégés.
Nous étions dans un cocon. Au bout de ce bled, après ce bled, il y avait 2000 mètres de rochers. On n'imaginait pas qu'un jour, les Boches pourraient monter.
Les enfants cachés de Prélanfray, par Dominique Prusac et François Test. Deuxième épisode, un village solidaire.
Alors Prélanfray, c'est un village avec les Saillants et Saint-Barthélemy qui font partie de la commune du Gard, sur la partie septentrionale du Vercors, à une trentaine de kilomètres de Grenoble, au pied des falaises du Gerbier. Alors les falaises du Gerbier, c'est pour les connaisseurs de la montagne, c'est là où le 19 septembre 1965 s'est tué Lionel Téré avec son compagnon de cordée Marc Martinetti. C'est donc un village de montagne et qui a toujours une difficulté. On n'était pas tout à fait Vercors, on n'était pas tout à fait dans le Trièves, et de notre hauteur de 950 mètres, on n'était pas non plus la vallée de Vif. Donc un peu cette autonomie qui a fait que dans le village, on s'est toujours débrouillé assez de manière autonome.
Gilles Emprin, vous êtes historien et conseiller scientifique au musée de la résistance et de la déportation de l'Isère à Grenoble. Que se passe-t-il ici quand la Seconde Guerre mondiale éclate en septembre 1939 ?
Alors comme partout, il ne se passe pas grand-chose, c'est-à-dire qu'il y a évidemment des soldats mobilisés, des jeunes qui vont partir à la guerre, mais c'est la drôle de guerre. L'attaque de juin 40 ne touche pas Prélanfray, les Allemands vont être arrêtés par l'armée française et par l'armistice à Vorep le 24 juin. Et en novembre 1942, suite au débarquement allié en Afrique du Nord, la zone sud, la zone libre, disparaît, elle est complètement occupée. Mais l'originalité ici, c'est que l'occupant n'est pas allemand, mais italien, pendant 9 mois. Toute la partie à l'est du Rhône, de Chamonix à Nice, c'était la zone italienne. Alors, c'est une zone qui était peuplée par beaucoup de migrants italiens depuis au moins un demi-siècle. Par vagues successives, il y avait donc plein d'Italiens dans la région. Et puis l'armée italienne, c'est pas l'armée allemande. Le général qui commande l'armée italienne ici, il est stationné à Grenoble, il s'appelle De Castiglione. C'est de la vieille noblesse lombarde, l'armée de tradition, tout ça, qui goûte assez peu au fascisme en fait. Il cherche la tranquillité. C'est une occupation relativement douce. Il y a eu un seul mort en 9 mois. Et ça va favoriser l'éclosion de la résistance. Prélanfray va vite apparaître comme un refuge dans la zone italienne. Les Juifs du nord de la France descendaient dans la zone libre. Ils vont aussi affluer dans la zone italienne. Parce qu'une des caractéristiques de l'occupation italienne, c'est qu'elle laisse tranquilles les Juifs. Mieux que ça, elle protège les Juifs contre l'administration française. Un épisode, février 43. Le préfet de l'Isère a mission d'arrêter 25 juifs suite à l'exécution d'un dignitaire nazi à Paris. Enfin, c'est une punition. Tous les départements doivent livrer des juifs, en quelque sorte. Et le général italien explique au préfet que non, ça ne va pas être possible, ça. En tant qu'autorité occupante, la question juive, ça le concerne lui, et que lui, il n'arrête pas des juifs. Et il oblige même le préfet à libérer des gens qu'il a arrêtés. Du coup, les Juifs de Lyon, de Marseille, ces gens qui étaient menacés qui avaient par la terreur des nazis, ils vont venir en Isère, en Savoie, en Haute-Savoie, à Nice. À Nice, c'est Simone Veil, la famille de Simone Veil, la famille de Klarsfeld. Et en Isère, on estime, alors c'est difficile d'estimer, hein, mais c'est plusieurs milliers, c'est sans doute près de 10 000 personnes qui viennent chercher un abri dans la zone italienne.
Monsieur Christophe Maloussier, vous avez été maire de Prélanfray pendant 19 ans. Vous êtes un enfant du pays. Ce qui est intéressant dans ce village, c'est qu'il n'y avait pas que des enfants que l'on protégeait, que l'on cachait au préventorium. On cachait aussi les parents, quelques parents de ses enfants, même si des parents allaient ailleurs. Mais il y avait une protection générale de gens qui étaient d'origine juive.
Moi, je sais que ma mère me racontait que les enfants, en tout cas, elles savaient qu'il y avait des personnes juives dans le village, puisqu'en fait, dès qu'il y avait une alerte comme quoi les Allemands risquaient de venir, les maisons se vidaient. Et donc, par définition, tout le monde comprenait qu'il y avait des familles juives qui étaient hébergées dans des habitations ou chez les habitants.
Vous qui avez été maire de Prélanfray, qui connaissez très bien la population, comment expliquer cet élan de solidarité qui s'est déroulé ici pendant l'occupation allemande? Est-ce que vous avez une petite idée de ça?
Je vous citerai peut-être le message d'Elie Wiesel, en 1993, qui dit « Dites à nos amis de Prélanfray-du-Gard combien le juif que je suis leur est reconnaissant en ce temps-là. Il suffisait d'être humain, c'est-à-dire être ouvert à la compassion pour vaincre la mort et ses serviteurs. Grâce à ses amis, nous le savons, leur courage justifie la foi que, en dépit de tous, nous plaçons encore dans l'humanité de nos contemporains. » Ça vaut pour aujourd'hui aussi. Les gens sont restés humains. Il y a aussi peut-être des facteurs qui ont permis cette humanité. C'est avant tout la solidarité qui existait dans le village. Vous êtes dans un village de montagne, à 960 mètres d'altitude. Ça veut dire que l'hiver, vous faites attention les problèmes d'enneigement, notamment à ces époques. Vous êtes vigilant vis-à-vis de vos voisins. Et puis, vous aviez aussi, dans le village, vous aviez une société de secours mutuel du village. Et l'objectif, c'était de faire en sorte que, quand il y avait quelqu'un en difficulté, on l'aidait. Alors après, c'était aussi l'approche pour les enterrements, donc vous organisiez l'enterrement. Et puis une autre structure qui était une coopérative, et donc qui permettait l'achat regroupé et permettait aux habitants d'avoir des prix plus intéressants que si vous l'achetiez par vous-même.
Ça commence par les tilleuls, le préventorium c'est les tilleuls, puis on construit le prévent, qui a un autre bâtiment pour en accueillir plus, et quand il y en a de plus en plus, on commence à les placer en effet dans les familles autour. Et les parents, parfois ils sont pas très loin, mais pas au même endroit. Ou alors ils sont restés à Lyon, à Marseille, ils essayent de se débrouiller comme ils peuvent, mais l'idée c'était de mettre les enfants à l'abri. Et il y a des structures, des associations juives pour ça, l'œuvre de secours aux enfants, la fameuse OSE. Il y a plusieurs organisations, plus ou moins politiques, plus ou moins socialistes ou plus ou moins sionistes, qui essayent d'organiser ces caches d'enfants ou les départs vers la Suisse, qui sont évidemment le vrai refuge, entre guillemets, c'est la Suisse.
Anne Wall, infirmière au préventorium, enregistrée en 2012.
Je suis arrivée au préventorium en 1942, fin 1942. J'ai découvert que c'était des enfants juifs qu'on soignait. Il faut penser que la famille Guidi a pris de très grosses responsabilités. C'est elle qui était responsable du choix des enfants. Même dans la nuit, on leur apportait des bébés à protéger. Et si nous étions pris, c'était la fin de la vie. Et j'avais 20 ans à peu près, ou 19, enfin bon. Ça n'a rien changé de mon comportement vis-à-vis de l'ambiance à donner à une collectivité d'enfants traumatisés. Il fallait absolument qu'ils restent dans la vie, et dans la vie normale.
« 1er juillet 1941, mes premières impressions sur les patrouilles. »
Nous sommes nombreux au tilleul. Aussi, nous allons nous partager en patrouille. Il en est ainsi toutes les années. Il me semble que tout va marcher à merveille. Il y a 8 patrouilles. Les mouettes, les loutres, filles, les goélands, les castors, les crocos, garçons, les pingouins, demi-cures, les lézards, cures complètes, et les têtards, les tout-petits. Le grand chef de tous ces animaux et oiseaux se nomme Lucette. Chaque patrouille a sa corvée. Les corvées se composent de vaisselle, lessive, cuisine, hygiène, essuyage des tables et pesée. Les patrouillards ont promis d'obéir et les chefs l'espèrent. Lorsque le sifflet retentit, les chefs et les sous-chefs accourent pour chercher leurs patrouillards et les font mettre en rang. La devise des patrouillards, « Patrouillard, fais de ton mieux !»
Et du coup, la vie, c'est la vie d'une colo, une espèce d'ambiance scout, là, où ils font des fêtes, des patrouilles, il y a tout un truc, c'est entre le scoutisme et le... Et l'école, enfin, c'est et du coup, il y a une ambiance étonnante qu'on retrouve bien dans leurs textes. Et même si le contexte, eux, ils l'ont aussi. Hein, il y a un moment, ils inventent une pièce de théâtre où il y a Hitler dedans, hein, où il y a le rêve d'Hitler. Ça. Donc, ils sont pas complètement déconnectés du truc, mais c'est des gosses.
Salomon Milgrom, vous avez été un enfant juif caché pendant la Seconde Guerre mondiale au préventorium de Prélanfray. Quel âge aviez-vous à cette époque et quels sont vos souvenirs de cet épisode de votre vie ?
Alors j'étais âgé, je suis arrivé en septembre 1943, donc j'avais 12 ans. 12 ans, les souvenirs que j'ai, je n'ai que de très très bons souvenirs de Prélanfray. D'ailleurs, parfois, malgré que c'était dans une période très troublée, je dis ça a été, pour moi, je pense, la meilleure année de mon enfance. Il y avait une infirmière qui gérait le préventorium, elle était âgée de 20 ans, 21 ans. Alors elle nous faisait faire de temps à autre un tout petit peu de scolarité, mais le reste, on rigolait, il y avait deux, trois défis, et tout ça, donc on était comme dans une colonie de vacances. J'ai appris, en 1943, skier. Ce qui était pas banal, les gens étaient gentils, la famille avec qui on était des gens fantastiques, des gens qui, comment dirais-je, ne cachaient pas les gens pour de l'argent, mais c'était uniquement par empathie, ils vous faisaient, enfin, c'était vraiment des gens extraordinaires.
Les Allemands arrivent en septembre 1943, quand au moment de la déconfiture générale italienne, les Italiens se replient dans le plus grand désordre, disparaissent, et du jour au lendemain, ça y est, toute la France est occupée par les Allemands, y compris cette zone. Prélanfray, c'est difficile d'accès, c'est petit, c'est discret. Si personne parle, si ça raconte pas trop qu'il y a des gamins là-haut, et en fait, ça n'a pas raconté.
Et le 22 juillet 1944, se passe un épisode tragique ici, Gilles Emprin.
Il aurait encore pu être plus tragique. Alors, le 22 juillet, c'est le lendemain du 21, et le 21, c'est le déclenchement de l'attaque générale des Allemands sur la citadelle du Vercors. On connaît ces épisodes, hein, ils attaquent sur tous les bords du Vercors, puis les planeurs avacieux, les massacres de civils, la nuit du 21 au 22, où ils vont prendre en otage à la chapelle des gens un peu au hasard, résistants ou pas résistants, et ils vont les fusiller dans la cour de l'école. Et ici, assez logiquement, puisque les Allemands investissent le Vercors, ils vont aussi monter par là pour bloquer toute l'école d'accès au Vercors et pouvoir l'encercler complètement. Et donc, ils sont à la recherche de résistants, de combattants, et ils vont arrêter tous les gens, en gros, de 16 à 40 ans qu'ils vont trouver dans le village, et ils vont les mettre contre le mur à côté de la mairie,
le
mur de l'école, avec la question, c'est est-ce qu'on va les fusiller dans le dos, pas dans le dos, mais en tout cas, il y a une crainte énorme, parce que pendant ce temps, dans le reste du Vercors, on massacre à tour de bras. Alors, ils y restent là toute la journée, ils vont finalement être emmenés à Grenoble et non pas fusillés. Et moi, je pense que c'est parce que c'est des gens qu'on a arrêtés et qui n'étaient pas armés.
Arrive par la montagne. Nous étions partis, mon frère et moi, On était à la montagne. Alors, il faisait beau, c'était le 22 juillet. Il y avait un soleil de plomb. On va, on se promène, on marche, on marche. À un moment, on voit un beau cerisier, plein de cerises. Qu'est-ce qu'on fait? On monte dedans, on commence à manger les cerises. Et on est là et on l'attend. Il se passe peut-être une heure ou deux. Et à un moment, on entend du bruit. C'était un escadron allemand. Et là, les Allemands, alors on bouge et ils nous voient. Ils nous font descendre. C'était un escadron de 18 soldats allemands avec un officier. Ils cherchaient les maquisards. Ils marchaient deux par deux et ils nous mettent en queue de peloton, mon frère et moi, encadrés par deux Allemands. Et à un moment, ces deux soldats qui étaient là se mettent à parler, à raconter l'histoire. Et ils rigolent, ils rient. Mais vraiment des histoires qui se racontent entre eux. Et sans savoir pourquoi, tout d'un coup, ils se mettent à parler en polonais. Mon frère comprenait un tout petit peu, vous savez, les mots que l'on apprend quand on est en classe. Et il cite le mot « dupa ». Dupa qui veut dire « le cul ». Donc, on a pensé qu'il devait se raconter des histoires de cul entre hommes. Et est-ce que on a souri? Est-ce que on a fait un geste? A-t-on fait quelque chose qui aurait pu leur faire croire qu'on comprenait? Juste à ce jour, je m'interroge toujours. Toujours est-il que, bon, on marche. Vers 3h de l'après-midi, on s'arrête dans une clairière et il y a deux autres soldats allemands qui vont voir l'officier et qui leur dit « Was macht man mit denen ?» Ce qui veut dire « Qu'est-ce qu'on fait avec eux ?» en parlant de nous. Et l'officier répond « Mais Musa ist schießen, il faut les fusiller. » Et mon frère et moi, on entend ça. Inutile de vous dire dans quel état on se trouve. Et à ce moment-là, se lèvent les deux soldats, parlant polonais, vont voir l'officier et se mettent à discuter avec lui, pas palabrer. On voit bien que c'est pas des maquisards, c'est des enfants, on va pas fusiller des enfants, et ceci-là. Ils palabrent pendant 20 minutes, et au bout de 20 minutes, ils reviennent, les deux, ils disent, allez, taillez-vous, partez. Alors je dis, là ça a été le premier grand mazel. Vous savez, je cite toujours le mazel parce que le mazel, ça veut dire la chance. Et vraiment, je dis là, c'est la chance. Et double mazel. À l'époque, quand un Allemand arrêtait ou interrogeait un homme, la première des choses qu'il faisait, il lui disait, baissez votre pantalon pour voir s'il était circoncis. Et là, deuxième mazel, ils ne nous ont pas demandé de baisser votre pantalon. Et donc, on est parti en courant. Et ça, c'est pas terminé comme ça, quoi.
Mais j'imagine quand même que les Allemands ont voulu pénétrer dans le préventorium, voir ce qui s'y passait. Tout de même, il y avait des enfants qui étaient là.
Alors, c'est l'épisode où Anval, les roule un peu, quoi, en gros, quand elle voit arriver les Allemands, elle a le cran de bien s'habiller en infirmière, de faire rentrer les gamins, de dire aux Allemands que c'est un préventorium, et elle explique ce que c'est qu'un préventorium, tuberculose, en gros, c'est un peu dangereux même de frayer avec des gamins malades, quoi. Et du coup, ils regardent, elle leur montre qu'il y a des gamins qui sont malades, et ça passe comme ça.
Justement, Gilles Emprunt, comment se fait-il que les enfants n'aient pas été découverts, ces enfants d'origine juive? Puisqu'ils investissent le village, ils sont à côté du préventorium, comment se fait-il qu'ils n'ont pas été plus loin, d'une certaine façon?
En effet, ils sont pas, ils ont pas la peau bleue, comme disait la propagande de Vichy, qui disait « Ah, c'est embêtant ces juifs, parce que ils sont difficiles à repérer. Hein. » Bon, s'ils avaient la peau bleue, ça serait plus facile. Là, on est dans le... Ben, c'est des gamins, quoi. Il y a des gamins qui sont placés dans des fermes. La consigne, c'est des cousins de Paris. Comme à Paris, c'est difficile, on n'y a rien à manger, on nous a envoyé les gamins pour qu'ils soient à la campagne, à l'air libre, et puis qu'ils aient des patates et des œufs et qu'ils mangent correctement. Du coup, ce discours-là, il est audible parce que ça existe. Simplement, là, il y a une réalité augmentée, que les gamins, ils sont ni cousins, ni bons français, ils sont juifs et placés là, mais ça passe inaperçu dans le village, et puis il y a des gens qui devaient le savoir, et puis qui n'ont pas jugé utile de le raconter partout.
« Claire Pallard, vous n'êtes pas Palanchoun, vous habitez loin d'ici, à l'ouest de la France, et pourtant, vous êtes très attachée à Prélanfray et à l'histoire des tilleuls et du préventorium. Pourquoi ?
Pourquoi ? Probablement à cause de ma mère, qui a écrit un livre qui s'appelle « La petite histoire dans l'histoire », et ce paragraphe que je vais vous lire vous expliquera tout dans le contexte actuel. « Je voulais, mes enfants, vous dire ce que j'avais vu du retour des camps. Je l'ai fait le plus brièvement possible, mais n'oubliez jamais, et que vos enfants sachent aussi se souvenir. Cette réalité, ce vrai que j'espère de toutes mes forces, on ne reverra plus. Que jamais parmi vous, aucun ne puisse dire qu'elle n'a pas existé. Nous avons cet héritage aussi. » Je porte donc l'héritage de ma famille juive depuis ma naissance. J'ai toujours vécu dans le souvenir de l'oppression qu'a subi ma famille, et particulièrement ma mère, et la disparition de mon oncle Georget. Et pourquoi je suis à Prélanfray ? Parce que j'ai toujours entendu parler de Prélanfray par ma mère.
Parce que Édouard, que vous citez souvent, est un des premiers enfants à venir à Prélanfray. Et Édouard appartient à votre famille.
Édouard était mon oncle préféré. J'ai passé toute mon enfance et toute mon adolescence. C'était un guide pour moi. Il m'a énormément appris, mais il ne m'a jamais parlé de Prélanfray.
Alors, on précise que Édouard, c'est Édouard Lope. Son nom de famille, c'est Lope. Et que c'était quelqu'un qui était très, très actif au Tilleul, à la maison des Tilleuls et puis au préventorium.
Alors, Édouard était un littéraire. Il a fait son droit après. C'était un homme de discussion, d'arguments, et un grand théoricien. Donc il animait un club de jeunes gens intellectuels qui débattaient d'idées de tout, allant du menu du midi à des grandes théories au socialisme, au communisme. Il était plutôt dans l'intellectuel de l'ombre. Le grand animateur de Prélanfray, c'était son petit frère, Georget Lope, qui était devenu l'organisateur des troupes des enfants de Prélanfray, puisque lui-même étant éclaireur, il avait divisé tous les enfants et jeunes gens en patrouille pour faire des animations, préparer des spectacles, et puis à la fin pour organiser les corvées, parce que en 40-41, tout devenait compliqué pour l'alimentation, donc il participait à l'aide de la maison. Et Francine, ma maman, qui avait plusieurs années de moins que ses frères, était la petite joyeuse de la bande, insouciante, semant le bazar partout et adorant Prélanfray.
Septembre 1941, tout ce que j'ai appris au Tilleul.
J'ai appris des chants et beaucoup de jeux. J'ai aussi appris la discipline et à faire les corvées. J'ai appris à nettoyer les tables et à mettre le couvert, ce qui peut me servir. J'ai appris à éplucher les légumes. J'ai aussi appris des signes de piste. J'ai aussi appris à me faire des camarades. Et maintenant, je sens que je ne suis plus seule sur la terre. Et à respecter les personnes qui sont au-dessus de moi. Et le soir, quand on rentre se coucher, on parle avec les copains et avec le chef.
Jacqueline Chabel, vous avez été institutrice. Comment expliquez-vous que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y ait eu tant de solidarité ici, que ces enfants d'origine juive qui étaient accueillis n'aient pas été dénoncés, que toute la population finalement a fermé les yeux ou les a aidés ?
Est-ce que les gens au sujet de la guerre, est-ce que les gens connaissaient tout ? Je pense pas. Il y avait souvent une question d'ignorance aussi, hein, et dans l'ignorance, les gens n'osaient pas trop parler de peur de dire des bêtises, ou bon, ils savaient très bien que la période était difficile, il fallait quand même pas se tromper non plus, hein. Et comme ces enfants, étaient heureux de vivre ici, je vois pas pourquoi il aurait fallu poser des questions, et apparemment les choses se passaient bien, quoi, à la vue de tout le monde, parce que les enfants avaient quand même une ouverture dans le village, même si toutes les activités scolaires et puis les animations entre jeunes se passaient au Prévin, on les voyait faire leurs promenades, c'était encadré, il y avait un bel esprit. Ça c'est quelque chose aussi à respecter, il n'y a pas de commentaire à faire dessus, quoi. Ajoutons-y aussi que cette famille était quand même assez respectée et protégée, parce qu'ils avaient quand même des activités au pays. Auguste, celui qui s'occupait de la menuiserie, avait la scierie, et avec la scierie, il employait des personnes du village. parce que c'était une économie rurale, mais pas avec des gros rapports, hein. Donc il fallait souvent un complément de salaire pour pouvoir vivre dans le pays où les gens étaient bien, mais enfin il fallait quand même aussi de l'argent. Donc ils étaient respectés aussi de par les emplois que cette famille leur procurait. Ajoutons-y que ces établissements, soit le préventorium, soit le lazaret, ou tout ça procurait aussi des emplois. Il y avait des personnes qui étaient cuisinières, des personnes qui étaient lingères, il y avait des monitrices, il y avait des institutrices, il y avait une infirmière qui, en l'occurrence, était l'épouse de Jo. Mais elle, elle avait plus d'ouverture aussi sur le village, parce qu'au village aussi, quand vous aviez des bobos, le médecin n'était pas à côté, il venait pas toujours quand on voulait, ou des pansements à faire. Donc, eh bien, vous n'avez qu'à venir au Prévent, on a la pharmacie, on va vous faire un petit pansement qui soit au moins sain par rapport à ce qu'on fait chez soi, quoi. Voilà.
Gilles Emprin, est-ce que Prélanfray est un cas unique où l'on cache beaucoup d'enfants juifs, dans un préventorium ou dans un autre endroit?
C'est pas un cas unique, c'est un cas intéressant parce que le rapport entre le nombre de gamins abrité et la taille du village est assez étonnante, mais c'est pas un cas unique. C'est un cas intéressant aussi parce que il y a pas eu de tragédie, c'est un cas qui a réussi. C'est un Isieux à l'envers, c'est un Isieux où il y a pas eu de tragédie, le sauvetage a réussi. À Voiron, il y avait un petit Prélanfray, les enfants ont été un peu séparés parce qu'ils étaient 70, ils ont été séparés en deux groupes. Il y a un groupe qui a survécu, qui est resté caché. L'autre a été pris, la rafle de la Martelière. Ça se passe en mars 43. Donc il y a eu d'autres Prélanfrays, des réussites et puis malheureusement des tragédies.
Dominique Lardet, nous sommes juste à côté de la maison des Tilleuls, où a démarré le préventorium, et nous sommes sur une place qui s'appelle la place des Justes. Pourquoi?
Parce qu'il y a eu des Justes, et même le village entier aurait pu être reconnu comme un village de Justes, étant donné que sur les 175 habitants qu'il avait pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a recueilli en plus de 50 juifs. Moi, je suis arrivée à en comptabiliser 60. La famille Guidi, dont nous parlions tout à l'heure, a agi non seulement envers les juifs, mais aussi pour les résistants et a mérité, bien sûr, la médaille des Justes. Il faut savoir qu'Hélène Guidi a reçu aussi un diplôme de FDFTP qui lui a été décerné en septembre 1944 pour son aide apportée aux maquisards de Prélanfray.
C'était Les enfants cachés de Prélanfray. Merci à Dominique Lardet, Gilles Emprin, Christophe Mayoussier, Jacqueline Chabuel, Salomon Milgrom, Claire Pallard et aux élèves de la 3e 5 du collège Le Masségu à Vif. Voix d'Anneval et de Daniel Sidlo, extraites des archives du musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère. Chargée de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. Un documentaire de Dominique Prusac et François Teste.